Nous abordons aujourd'hui, nous allons aborder aujourd'hui la quatrième valeur, en tout cas le quatrième point que nous avons sur, on espère, les futurs traités de l'Église. Donc une Église qui évangélise. Alors, en y réfléchissant un peu par rapport à l'évangélisation, je voudrais ce matin aborder quelques pensées par rapport à cela. Parce que je pense que nous avons besoin, en tant qu'Église, de comprendre ensemble la nécessité d'évangéliser le monde. Alors, bien sûr qu'il faut qu'on comprenne ce que nous sommes en train de dire au travers de cette prédication. Bien sûr que si le Seigneur nous demande individuellement d'aller dans un endroit, un pays complètement différent de la France, eh bien que le Seigneur travaille votre cœur par rapport à cela. Mais en même temps, je pense que l'évangélisation, c'est pas toujours ce qui se passe à l'extérieur, loin de chez nous. Il y a la possibilité, en tout cas, de le faire pas très loin de chez nous, dans nos familles, en tant qu'individu, chez nous, avec nos propres enfants. Donc, évangéliser n'est pas forcément aller à l'extérieur, même si le Seigneur nous l'a demandé. Alors, ce matin, je vais aborder quelques pensées par rapport à l'évangélisation. Tout d'abord, je voudrais lire un texte que vous connaissez peut-être parce que vous l'avez lu et relu. C'est un texte qui va nous accompagner juste par rapport à ces questions que Paul pose en tout cas à l'église de Rome, au chapitre 10, les versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Voilà un petit peu le texte que je voudrais qu'on essaye de regarder ensemble. Tout d'abord, le mot évangéliser, dans la Bible, il a été écrit en grec, puisque le mot, pour la première fois, nous le voyons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot en grec signifie apporter, annoncer une bonne nouvelle. Et deux exemples sont dans la Bible qui ne sont pas forcément dans l'idée, je dirais, de l'implication d'annoncer la bonne nouvelle, comme il est dit ici dans ce texte. Mais vous avez le mot qui est représenté dans deux passages, de faire une annonce. Donc, par exemple, quand l'ange Gabriel est venu annoncer à Élisabeth la naissance de Jean, c'était une bonne nouvelle qui était prononcée là, mais rien à voir avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Et puis, vous avez aussi, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6, où Timothée apporte une bonne nouvelle à Paul, de la part de l'église de Thessalonique. Donc, le mot est là, d'accord, mais c'est pas dans le sens de la bonne nouvelle, comme il est dit par rapport à évangéliser. Alors, dans la majeure partie du cas, quand on regarde ce mot dans la Bible, la bonne nouvelle, c'est quoi au fond? Si je devais définir l'idée de la bonne nouvelle, alors j'ai essayé de travailler un petit peu ma cervelle, pris un petit peu quelques idées à droite à gauche, mais la bonne nouvelle, c'est la proclamation de la mort de Jésus pour le pardon de nos péchés. Ça, c'est la première chose que nous devons dire à l'humanité qui nous entoure. Jésus a eu la victoire sur la mort en ressuscitant. Ça, c'est la deuxième pensée. La troisième pensée, c'est que Jésus nous a donné une espérance d'être avec lui dans la vie éternelle. Ça, c'est la troisième pensée. Donc, la bonne nouvelle, c'est la proclamation de Jésus-Christ pour la mort, pour nos péchés personnels, et pas pour les péchés d'autrui, mais dans le sens personnel, bien sûr que pour le monde aussi, il faut englober cela, qu'il a eu la victoire sur la mort en ressuscitant, sans résurrection, il n'y a point d'espérance pour les chrétiens. Si les personnes ne croient pas en la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas d'espérance. Et après, eh bien, la dernière, c'est l'espérance que Jésus a dit, que ben, tu seras avec moi dans la vie éternelle si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur. Alors, quelques pensées qui vont ressurgir ce matin. La première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est que cette mission de proclamation s'adresse à toutes les personnes qui ne confessent pas Jésus-Christ. C'est-à-dire que si vous rencontrez demain une personne qui ne confesse pas Jésus-Christ comme son sauveur, vous avez la responsabilité de lui annoncer l'Évangile. Dieu vous a donné la responsabilité de lui parler de Jésus. Si votre boulangère, si votre boucher, si votre enfant, si vos amis, vos parents n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, vous avez la responsabilité de leur annoncer l'Évangile. Le Seigneur l'a fait, et en tant que disciples, ils l'ont fait. Et le Seigneur nous montre au travers de ce passage qu'ils sont beaux ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Et vous avez une bonne nouvelle à annoncer à l'humanité. Deuxième pensée, il est important de prendre en compte les éléments culturels quand on parle de l'évangélisation. En réfléchissant un petit peu, on n'évangélise pas les quartiers du nord de Marseille comme si on le ferait du 16e arrondissement de Paris. Je pense qu'on aurait sûrement une autre manière de réfléchir si on était dans les quartiers nord de Marseille ou si on était dans le 16e arrondissement. J'ai réfléchi aussi différemment dans les petits villages de la Seine-et-Marne. On évangélise différemment dans les petits villages de la Seine-et-Marne. Mais n'oublions jamais une chose, c'est que le Seigneur, même s'il nous a donné un ordre de mission, et c'est le cas, eh bien le Seigneur sait parler autant au quartier nord de Marseille, autant dans le 16e arrondissement de Paris, mais autant dans les petits villages de la Seine-et-Marne qui nous entourent. En attendant, le Seigneur nous a donné un ordre de mission qui est lancé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28 et le verset 19. Troisième pensée, et cette pensée je suis allé la chercher dans un théologien anglican évangélique bien connu, aujourd'hui décédé, auprès du Seigneur. Il a écrit une quarantaine d'ouvrages dans le milieu évangélique, dans les chrétiens en tout cas, et voici ce qu'il dit dans un de ses commentaires sur l'évangélisation. L'évangélisation ne doit pas être définie en termes de résultats. Bien trop souvent, les chrétiens se découragent pour les résultats. Si on n'a pas de résultats, Dieu ne nous a pas bénis. Mais en fin de compte, quand on regarde ce genre de choses, le résultat ne nous appartient pas. Et j'aime beaucoup la pensée de cet homme qui dit par la suite, évangéliser, ce n'est pas traiter le problème de l'incroyant par des discours qui produiraient des conversions. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle, quels que soient les résultats. C'est-à-dire que nous n'avons pas à regarder les résultats. Nous avons notre responsabilité en tant qu'annoncer l'Évangile aux personnes qui nous entourent. L'apôtre Paul a dit ceci à l'église de Corinthe, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ce que vous avez semé, votre responsabilité, elle s'arrête à d'avoir planté une graine chez la personne à qui vous avez parlé. La responsabilité de Dieu, c'est de faire grandir cette graine que vous avez plantée. Quatrième pensée, c'est qu'il n'existe pas de méthode d'évangélisation. Vous savez, j'ai appris depuis maintenant plus de 30 ans que L'évangélisation, c'est divers. On peut évangéliser avec un film, on peut évangéliser par un rassemblement, ce qu'on appelle d'évangélisation. Et je me souviens, enfin, j'ai un petit peu de cheveux blancs, et pour avoir lu un petit peu quelques livres là-dessus, que les grandes campagnes d'évangélisation de masse qui se faisaient dans les années 50, 60 et 70, en France et ailleurs, sont petit à petit retombées, je dirais, aujourd'hui, quand certains font des campagnes d'évangélisation de masse, eh bien, ils constatent que les résultats ne sont pas aussi fructueux que dans ces années-là, en tout cas, où il y avait des vrais réveils, dans le sens, dans certains pays, où quand il y avait un évangéliste qui passait et qui faisait la prédication, eh bien, il y avait des vrais réveils, c'est-à-dire il y avait des personnes, des dizaines, voire de centaines de personnes qui se levaient pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il faut avouer que certaines églises se sont posées la question, et même certaines personnes penseuses dans le milieu évangélique, aujourd'hui, il y a plus de résultats dans les groupes de maison, j'étais étonné d'en prendre cela, ou dans des cours de découverte de la Bible. C'est-à-dire que si nous proposons des cours de découverte de la Bible et dans des groupes de maison, eh bien, il y a plus de résultats que ces campagnes, des grosses campagnes d'évangélisation en masse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en faire de ce genre de choses, mais en attendant, elles ont moins de résultats aujourd'hui, en 21e siècle, que ces périodes, je dirais, à un moment donné où il y avait certains réveils dans certaines villes. Paul s'est adapté. Et je m'aperçois que nous, en tant qu'Église, nous devrions apprendre à nous adapter à l'évangélisation. Nous devrions réfléchir à notre manière de présenter Jésus-Christ à cette humanité au 21e siècle. Alors, quel message est-ce que vous délivrez quand vous rencontrez votre ami, un parent qui n'a pas Jésus, ou un collègue qui n'a pas Jésus? Eh bien, si vous regardez dans la Bible, je n'ai pas le temps de le faire ce matin, mais si vous regardez dans la Bible, vous avez dans la Bible les messages qu'on appelle d'évangélisation. Pierre a prêché un message d'évangélisation. Paul a prêché des messages d'évangélisation. Vous avez dans le livre des Actes des Apôtres, quand il s'est présenté devant le roi Agrippa, il a prêché l'évangile. Vous avez Philippe qui a présenté l'évangile à un eunuque. Vous avez Paul qui a présenté l'évangile à un geôlier qui s'appelle Philippe, qui s'est converti ensuite dans Actes chapitre 16. Vous avez tous ces messages qu'on appelle d'évangélisation, mais vous avez une façon de faire qui est complètement différente. Donc vous avez des messages, ce qu'on appelle des messages, des entretiens en tête à tête. Le geôlier, il était tout seul. La famille n'était pas là. Le geôlier était en train de bosser, il était en prison. Il n'y avait pas la famille qui était là à côté. C'est au travers du message que le geôlier a entendu à un moment donné, quand il est rentré à la maison, il a vu sa femme et ses enfants et sa famille ont vu qu'il y avait un réel changement de cœur. Toute la famille a accepté Jésus-Christ par la suite. Donc d'abord, un message individuel, ensuite la conversion de toute la famille. Philippe, il s'adresse à une seule et unique personne, l'eunuque qui rentrait de voyage. Il était à Jérusalem, il rentrait chez lui en Éthiopie. La Bible nous dit que Philippe s'est adressé à une personne individuellement parce que l'eunuque était en train de lire un passage de l'Ancien Testament qu'il ne comprenait pas. Et Philippe va lui expliquer individuellement et il va accepter Jésus-Christ. Mais dans la Bible, nous voyons aussi des manifestations publiques, de messages, je dirais, des discours publics. Vous avez l'apôtre Pierre, la Bible nous dit qu'après son discours, 3000 âmes se sont converties. Ça serait superbe si à chaque fois qu'il y avait un discours, 3000 âmes se convertissaient. Mais il y a eu ça dans l'histoire de l'Église à un moment donné. Étienne, quand il a eu son discours, la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu des âmes qui se sont converties. La Bible nous dit que ça a levé une colère chez certaines personnes et ils lui ont jeté des pierres pour le lapider. Voilà le discours qu'Étienne a donné à un moment donné publiquement Et au lieu de la conversion, il y a eu de la lapidation. Et vous avez l'apôtre Paul qui a prêché devant des rois, des personnes, donc des personnes connues. Le roi Agrippa était une personne connue. Et il va dire à un moment donné, le roi Agrippa, après avoir entendu ce discours, il va lui dire, si tu continues, je vais accepter Jésus. Mais il était à deux doigts. Hein, à deux doigts, il n'a pas voulu accepter. Donc, il n'y a pas un type de discours. Je pense que Dieu nous a donné un don, peut-être un talent, que Dieu nous a donné une intelligence, une sensibilité, et que nous devons adapter le discours à notre culture. C'est-à-dire que le discours de l'Évangile restera le discours de l'Évangile. C'est-à-dire que si nous disons les trois choses que j'ai dit au départ, eh bien ce discours, qu'il soit prêché ici, ou qu'il soit prêché dans les quartiers nord de Marseille ou au 16e arrondissement de Paris, restera le même discours. Ça restera la bonne nouvelle que nous devons annoncer aux personnes qui nous entourent. Alors, comment le prêcher, ce message? Comment dire quand je rencontre pour la première fois une boulangère? Ou quand je rencontre pour la première fois quelqu'un dans le train? Comment dois-je lui apporter l'Évangile? Parce que si je constate ce que la parole de Dieu me dit, elle me dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc ma responsabilité, c'est de savoir racheter le temps quand le Seigneur me demande d'annoncer l'Évangile. Je pense que quand on annonce Jésus-Christ, on doit aller à l'essentiel. Et l'essentiel est important quand on parle de Jésus-Christ. Alors bien sûr qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre plus que l'essentiel. Il y a des personnes qui ont besoin de plus que d'annoncer Jésus-Christ simplement. Mais la base, elle reste la base. Et nous devons dire aux personnes qui nous entourent ce qui reste la base dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait à l'église des Colossiens, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Donc, nous devons nous conduire avec sagesse, avec nos enfants, avec nos parents, avec les personnes qui n'ont pas Jésus, avec les personnes qui n'ont pas du tout l'Évangile. Ma femme a raconté la semaine dernière une expérience qu'elle a vécue encore une fois dans la maison de retraite. Elle a appris qu'une dame allait partir. Elle allait mourir. Et elle travaillait ce jour-là dans l'établissement. Elle n'a rien dit à personne. Elle est allée voir cette dame. Elle s'est approchée d'elle. Et elle lui a annoncé l'Évangile point par point. Elle m'a dit, quand elle est rentrée à la maison, elle m'a dit, Nicolas, j'ai rien oublié. Je lui ai tout dit. Le lendemain, cette dame est décédée. Voyez-vous, quand on comprend cet aspect de vie et de mort, on comprend qu'une personne qui entend parler de Jésus, eh bien, c'est quelque chose que nous devons prendre vraiment acte. C'est une question de vie et de mort. Alors, on ne sait pas, Gabrielle ne sait pas si elle a accepté Jésus-Christ, mais c'est quelque chose qui doit nous interpeller en tant qu'enfant de Dieu. Les personnes que nous rencontrons, cela peut être une histoire de vie ou de mort. Peut-être que la personne que le Seigneur vous a mis sur le chemin, ça sera peut-être la dernière fois que vous la rencontrez. Et je pense que nous devons comprendre exactement ce que nous disons aux personnes qui nous entourent, donc d'aller à l'essentiel. Le Seigneur a fixé un but, et je pense que c'est bon de se le rappeler ce matin. J'aime le texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 28. On va le reprendre, si vous voulez bien. Ces quelques versets, cet ordre de mission que le Seigneur nous a donné. Et en y réfléchissant un petit peu à ce texte, il y a beaucoup d'autres choses qui sont venues par le biais de ce texte. Matthieu, chapitre 28. Et voici ce que le Seigneur vous a fixé comme but dans l'évangélisation. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Verset 16 du chapitre 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, il y a là quelque chose qui m'a personnellement interpellé. On ne peut pas aller dans ce monde, annoncer la bonne nouvelle, si d'abord on n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que les disciples ont fait, verset 17. Ça m'a tellement parlé, ce verset, que je me dis, ben, je comprends pourquoi maintenant, il y a quelques années, quand j'étais dans une église, qui me disait, Nicolas, avant d'aller évangéliser, on va d'abord louer et adorer le Seigneur. Ensuite, on ira sur le terrain pour annoncer l'Évangile. Et c'est exactement ce que les disciples ont fait. Quand ils le virent, ils adorèrent. Jésus, et ils disent, mais quelques-uns eurent des doutes. Ça prouve bien que le terrain de travail, le terrain de mission, n'est pas un terrain facile. Mais notre responsabilité, avant d'aller dans ce terrain, c'est d'adorer le Seigneur. Et notre responsabilité, c'est d'adorer avant d'aller sur le terrain. Premier aspect, faire des disciples. Comment pouvons-nous faire des disciples? Comment dire à cette nation qu'il se perd de faire des disciples? Quelque part, notre responsabilité, c'est de dire aux personnes, allez, viens, viens voir ce qui se passe à l'église de Marolles-sur-Seine. Tu verras que tu n'entendras jamais autre chant aussi beau qu'à l'église de Marolles-sur-Seine. Tu peux aller dans n'importe quel endroit, on a une chorale à Marolles-sur-Seine qu'il faut entendre. Vous devez écouter cette chorale. Venez au culte le dimanche matin. Quelque part, c'est ça, faire un disciple. C'est de dire aux personnes qui nous entourent, viens voir. T'es jamais rentré dans une église? Viens voir ce qui se passe à Marolles-sur-Seine. Cela définit un centre. Faire des disciples, et c'est l'aspect que le Seigneur voulait à cette humanité qui était autour des disciples. Mais par contre, faire un disciple, il faut qu'on regarde un petit peu le mot dans son contexte général. On définit un disciple comme un élève qui apprend. Mais franchement, je peux apprendre la philosophie de Descartes sans pour autant être son disciple. Je peux apprendre individuellement un enseignement de Jésus sans forcément être disciple de Jésus. Et j'ai rencontré dans ma vie des gens qui me disent, je suis chrétien, j'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas de... Mais un disciple de Jésus-Christ, c'est une personne qui apprend les leçons du maître. C'est un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître, et un disciple, c'est quelqu'un qui cherche intimement d'être conforme aux enseignements du maître. Et je pense que bien souvent, on oublie cet aspect-là. Donc, faire un disciple, c'est dire à quelqu'un, bien sûr, viens, mais notre responsabilité, c'est de l'emmener à écouter la parole de Dieu, et je pense que c'est important. Deuxième aspect, c'est baptiser-les. Quelqu'un qui a compris l'évangile doit passer par les eaux du baptême. Je pense que je l'ai assez dit, je le répéterai. Je pense que durant tout mon ministère, c'est un ordre dans l'église. C'est-à-dire qu'une personne qui a accepté Jésus doit passer par les eaux du baptême. Si la personne qui n'accepte pas Jésus-Christ ne passe pas, si la personne qui accepte Jésus-Christ qui ne passe pas par les eaux du baptême, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris dans la Bible. Et je pense que notre enseignement doit être basé sur, bien sûr, le baptême. Un disciple de Jésus devait passer par les eaux du baptême. L'eunuque n'a pas attendu 10 ans pour se faire baptiser. L'eunuque, il a vu de l'eau, il a dit, oh là, formidable, il y a assez d'eau, je peux plonger là-dedans, une superbe piscine qu'il y a là, je vais pouvoir me plonger pour être baptisé. Et je trouve que bien souvent, malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, au 21e siècle, beaucoup de gens attendent longtemps pour passer par les eaux du baptême. Je pense que quelqu'un qui a compris que Jésus-Christ est son sauveur, il doit passer par les eaux du baptême. Et nous avons besoin, en tant qu'Église, de le comprendre et de l'enseigner, de le répéter et de le répéter. C'est quelque chose d'important. Alors bien sûr, quand on le regarde à l'image de notre Seigneur et de ce que le Seigneur a promis à l'apôtre Pierre, savez-vous que notre responsabilité en tant qu'Église, c'est que Dieu nous a confié les clés du royaume des cieux. Il n'a pas confié les clés uniquement à Pierre. Il y a certains qui pensent, certaines églises pensent que oui, il n'y a que à Pierre qu'il a confié les portes de la responsabilité du royaume des cieux. Mais c'est à toute l'Église qu'il a confié cette responsabilité. Et nous, en tant qu'Église, nous avons la responsabilité d'apporter les gens dans le royaume des cieux. Christ a fondé son Église. « Je bâtirai mon Église », a-t-il dit. Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Et enfin, Christ est le chef de l'Église, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je pense que nous avons besoin de nous le rappeler. Et puis, le dernier point, le dernier aspect, c'est enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On le verra une prochaine fois, cet aspect de la formation. Je pense que c'est important en tant qu'Église qu'un disciple reçoive la formation, l'enseignement. Mais un disciple aussi doit aller plus loin s'il veut grandir, persévérer dans sa foi. S'il veut grandir dans sa foi, un disciple ne doit pas s'arrêter à la conversion. Parce que bien malheureusement, bien souvent, les gens s'arrêtent à la conversion. Ils pensent que après qu'ils aient accepté Jésus, eh bien c'est bon, maintenant je suis au ciel, j'ai plus besoin d'aller au-delà du ciel. J'ai compris, j'irai directement au ciel. Mais Jésus a dit à l'un de ses disciples, « Je dis aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc notre responsabilité, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Et vous le savez très bien, comme moi-même, qu'on est des personnes très oublieuses. Il suffit de fermer ce livre saint pour avoir oublié ce que ce livre saint a à nous dire, parfois, dans notre vie et dans notre cœur. Arrêtez de le prendre, ce livre saint. Arrêtez de le méditer, ce livre saint. Je vous dis qu'en quelques jours, en quelques mois, vous allez dire des choses que Dieu même va boucher ses oreilles. Arrêtez de prendre du temps avec le Seigneur et vous allez voir que si on est tellement faible dans le cœur, et Paul le disait bien, et je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre de connaître et d'être proche de cette vérité, afin que nous puissions persévérer dans notre foi, afin que nous puissions grandir dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'objectif de l'évangélisation, il s'adresse à vous individuellement. Vous êtes responsable devant le Seigneur de témoigner aux personnes qui vous entourent de l'évangile. Mais en tant qu'Église, nous sommes aussi responsables. Parce que le Seigneur nous a confié les clés du royaume des cieux. Et nous devons le prendre vraiment au sérieux, cet aspect. Est-ce que vous aimeriez pas voir tout ma rôle se convertir? Ce serait formidable, n'est-ce pas? Je suis persuadé que ça ferait parler le maire de Montereau, le maire de Provins, le maire de tous les villages dans les alentours. Il se passe quelque chose d'extraordinaire aux 115 grandes rues. On me dit souvent, on me parle souvent d'agrandissement d'église. Moi, je suis prêt à agrandir autant d'églises que vous voulez. Mais n'oublions pas l'ordre de mission que le Seigneur nous a donné. Je vais vous donner un petit exemple qu'on m'a donné il y a 30 ans en arrière quand je me suis converti. Imaginez que chaque chrétien ici prie pour une seule personne. Que durant l'année 2019, vous priez pour une seule personne. Et qu'à la fin de cette année, vous voyez cette personne se convertir. On est à peu près 70, 75 ici. On pourrait vite multiplier, n'est-ce pas? À mon avis, le projet qu'on a d'agrandissement, il faudrait même qu'on fasse un projet d'acheter encore du terrain à côté pour faire des choses vraiment, en tout cas dans le sens de l'évangélisation. Une personne convertie multipliée par 70. En l'espace de 10 ans, ça irait très très vite. Hein. Alors que nous puissions prendre conscience, de cet acte que le Seigneur nous a demandé. C'est vrai, le Seigneur nous dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, mais il faut le comprendre individuellement, et il faut aussi le comprendre dans le sens de ce que le Seigneur nous montre dans sa parole au travers de l'aspect de la valeur en tant qu'Église, de le comprendre aussi. La prochaine fois, on va parler vaincre des obstacles de l'évangélisation. Je vais terminer avec ça. Satan ne vous laissera pas tranquille. Si vous pensez que le diable va vous laisser tranquille, c'est pas le connaître, c'est peu le connaître. Et quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, les églises qui sont venues par la suite, Satan a jamais laissé tranquille l'église. Et il ne nous laissera pas tranquille. Si vous voulez savoir, si vous voulez avoir une bonne nouvelle, Satan ne va pas nous laisser tranquille. Par contre, une chose que je voudrais retenir et en conclure, Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix. Vous voulez avoir la victoire, c'est de vous mettre ça dans votre tête. Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix. Et nous pouvons avoir ensemble la victoire sur cet aspect d'aller annoncer Jésus-Christ aux personnes qui nous entourent. Jésus, c'est encore un jour de grâce, un temps où Jésus veut encore apporter d'autres personnes à l'Évangile. Alors que nous puissions le comprendre individuellement, mais que nous puissions aussi le comprendre en tant qu'Église, qu'il y a du boulot, il y a du job. Tant que Jésus n'est pas venu, le Seigneur nous a donné encore la possibilité de faire venir d'autres personnes à l'Évangile. Amen. Prions. C'est vrai, Seigneur, que nous avons les clés du royaume des cieux. Tu l'as confié à Pierre, parce que Pierre t'a posé cette question et tu lui as montré, Seigneur. Mais en même temps, Pierre a repassé ce message aussi aux 12 disciples. Et les 12 disciples ont continué à passer ce message. Nous avons besoin aujourd'hui, en 2019, de nous rappeler cela, de repasser le message à d'autres personnes. C'est notre responsabilité. Seigneur, tant que tu ne reviens pas nous chercher, c'est notre responsabilité d'annoncer Jésus-Christ aux personnes qui nous entourent. C'est une histoire de vie et de mort. C'est une histoire de vie et de mort si
mon enfant n'a pas Jésus dans le cœur. C'est une histoire de vie et de mort si mes amis, mes parents n'ont pas Jésus dans leur cœur. Tant qu'ils n'ont pas confessé que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur, ils ne seront pas dans le ciel. Que nous puissions le comprendre individuellement, mais que nous puissions aussi le comprendre collectivement, que c'est une histoire de vie et de mort. Alors que nous puissions ensemble œuvrer, ensemble, c'est vrai, louer le Seigneur, ensemble évangéliser, que nous puissions le comprendre collectivement et que ton nom soit proclamé dans cette région de France. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons chanté à un moment donné un